Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. C'est le 11e numéro des Gones. Et vous le savez, pendant une heure, on parle de Lyon. Actu, sortie, association. En fin d'émission, c'est l'antenne lyonnaise de Médecins du Monde que nous recevons. C'est à découvrir tout à l'heure. Et pour passer une heure avec vous, chers auditeurs, trois drôles de Gones. Une drôle de gonne blonde qui est vraiment radieuse en ce début d'année. Serait-ce le début de son professorat ou une petite robe noire? Qui sait? Marie-Ève?
Je croyais que tu parlais de Marie. C'est drôle.
Eh bien non. Une drôle de gonne au burne dont le surnom est Robert, Mathilde.
Robert?
Oui. Au bas de Boulogne, c'est pas ton surnom? Enfin, une drôle de gonne brune, Marie.
Brune? Mais comment ça, brune? Mais quelle horreur, mais quelle horreur.
Ah oui.
C'est moi qui suis chatte, hein.
Je sais que tu n'es pas brune, Marie.
T'es daltonien.
Tu es blonde, comme cet original. Mais bon, on sera filmé seulement le 25 février, je le dis pour les auditeurs. Donc je peux bien raconter que tu es chauve, cul-de-jatte ou coiffée à la Mireille Mathieu. Quelle différence, Marie?
Ah bah oui, surtout la Mireille Mathieu, une coupe champignon. J'adore, tout ce que j'aime. Par contre, tu peux pas raconter que j'ai des burnes, hein.
Moi, j'avais besoin, pour vous présenter façon drôle de dame, d'une blonde, une rousse et une brune. Donc c'est toi, Marie, qui fais la brune de service, c'est tout.
Bon, bah, vaut mieux être la brune de service que la blondasse de service, j'imagine.
Mais est-ce que tu sais pourquoi? Bah voilà, c'était donc une déclaration d'amour en fait, Marie, grâce à Lio, hein, que je voulais te faire. Pour moi, non, tu ne comptes pas pour des prunes.
C'est gentil, c'est mignon.
Est-ce que je peux t'appeler mon petit banana split?
C'est un peu tendancieux.
Bon, et si je vous ai présenté comme ça, façon drôle de dame, il faut le dire à nos auditeurs, c'est parce que Florent, eh bien, n'est pas avec nous. Remarquez qu'il aurait vraiment fait, pour le coup, une drôle de gonne, pour le coup, avec tous ses poils et puis son humour paillard. On le salue, hein, on pense bien à Aranon, surtout, et on retrouvera tout de même notre Florent. Pour une question de gonne en fin d'émission, c'est la magie de la radio, mais surtout dans le prochain numéro des Gones qui aura lieu le mercredi 25 février prochain en direct. Et attention, c'est l'événement, je le disais, en vidéo. Autre événement, hein, Romain, notre Gone journaliste sportif, sera avec nous pour l'occasion en direct et en vidéo le mercredi 25 février prochain. Mais pour l'instant, hein, c'est toujours toi, Marie-Ève, qui va lire sa chronique, hein, c'est ça, hein?
Oui, j'ai hâte qu'il soit là, ça me fera des vacances.
Oui, mais alors dimanche, vacances, repos, dimanche, l'OL jouait à Gerland contre le PSG, t'as suivi le match.
Oui, tout à
fait. Tu m'as dit par SMS que t'étais particulièrement bien placée.
Oui, depuis ma tribune personnelle.
En tribune présidentielle, non?
En tout cas, aux premières loges, bien au-dessus des projecteurs.
Tu étais où alors?
Bah, j'étais sur mon 7e ciel. En train de regarder depuis un petit nuage dans le stade.
Bon, elle était chez elle, on n'est pas rendu. Hein. Bon, allez, fini les présentations, il est temps de faire des gonneries. L'actualité nous appelle. Et oui, actu, on va jouer avec l'information locale. Mon petit banana split d'amour va continuer de vous conter l'histoire de Lyon. Marie-Ève, hein, qui a suivi depuis son 7e ciel, sic, le match OL-PSG, réussira peut-être enfin dans la chronique de Romain à prononcer la casette et non pas la casette. Mais avant tout ça, même sans Florent, Mathilde se déshabille. Aïe, calor. Et se transforme, aïe, pour vous proposer le point de vue d'une gonne sur l'actualité nationale et même internationale. des ébilles, d'accord, tu m'excites, mais je t'avais quand même demandé d'assurer ta chronique habituelle. Mais bon, apparemment, tu insistes, tu prends des aises comme ça et tu veux nous faire un message plus personnel, c'est ça ?
Alors oui, Thomas, je me suis dit qu'il était grand temps que je profite de l'extraordinaire opportunité que j'avais de pouvoir m'exprimer sur les ondes d'une radio potentiellement écoutée dans le monde entier pour vous livrer ce que j'ai sur le cœur.
Vas-y.
Chers auditeurs, vous vous demandez probablement pourquoi je m'apprête à affronter la Saint-Valentin seule, malgré les centaines de vos doux courriels que m'a transmis la rédaction. Eh bien, sachez que mon cœur appartient déjà à un autre.
C'est vrai.
Et aujourd'hui, je souhaiterais déclarer ma flamme à Vladimir Poutine.
Oh mon Dieu.
Cher Vladimir, Vladimir, qui donc saura mieux que moi, vêtu uniquement d'une chapka, réchauffer tes longues nuits sibériennes, seras-tu mon Valentin ? Vladimir, nous avons tant en commun. Comment ça, personne ne le voit ? Eh bien, chers auditeurs, pour votre gouverne, sachez que nous partageons déjà un très bon ami. Si jeune et déjà corrompu, quand Philippe de Villiers m'a contacté en octobre, me suppliant d'utiliser ma notoriété pour faire la promotion de son parc du Puy du Fou, je me suis empressée de créer Transhistorien, une émission qui, sous couvert de vous instruire, a principalement pour but de faire remonter la Vendée dans votre estime. Tâche difficile que j'ai déléguée à l'une de mes subalternes, car j'ai su m'inspirer des méthodes de management à la russe.
Oh, la mythomane.
Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que Philippe accepterait que le Puy du Fou soit exporté en Crimée.
Ah, ce filou. Alors, hein.
Je parie que l'Europe se sent bien bête maintenant qu'elle sait que si tu as pris cette région sous ton aile, c'est tout simplement pour lui permettre de se réconcilier avec sa propre histoire, d'apprendre à ses habitants qu'il y a 7 siècles aussi, les gens crevaient de faim et se pelaient les couilles. Oh, Vladimir, je sens que Marie et Clément approuvent déjà notre amour. Pour toi, j'arrêterai de brandir mon opulente poitrine dénudée en signe de contestation. Je sais que tu es quelqu'un de plus pudique, de plus mystérieux. J'ai su percer le mystère de ton cœur de glace et comprendre que ton féminisme... Tu l'aimes, mais confiné dans l'intimité des prisons. D'ailleurs, puisque tout le monde t'accuse sans cesse de tous les maux, je me joins à un autre ami commun. Dieu que tu aimes la France, mon cher et tendre. Oui, Gérard, la Russie est une grande démocratie. Ce n'est pas en Russie que les journalistes sont odieusement livrés aux attaques de dangereux terroristes. Non, toi, Vladimir, tu les protèges, leur fournis généreusement le gîte et le couvert, et les conduis même sur la voie d'une vie plus saine, d'une vie plus sûre, en leur proposant des activités que cet Occident qui a perdu ses couilles quand il a renoncé à ses manteaux de fourrure ose appeler travaux forcés.
Molo.
Vladimir, sois mon Valentin. Non, sois mon comte Vronsky, je serai ta Anna Karenine. Prince Andriev Nikolaevski.
À tes souhaits.
Boklonski, je serai ta Natasha Ilinichka Roskova. À même la peau de l'ours que tu auras virilement abattu, Vladimir. Je laisserai ta langue s'aventurer dans les moindres recoins de mon nombril rempli de vodka.
Bon, aller de l'actualité internationale, hein, grâce à notre Mathilde, et l'actualité locale, il n'y a qu'un adjectif et une chronique. Il est temps maintenant, chers Gones et chers auditeurs, de jouer. Et pour cela, première question. L'université Lyon 3 est au cœur d'une polémique. Oui, mais laquelle ?
C'est en train de fusionner, peut-être qu'ils ont des problèmes avec la fusion avec Lyon 2, non ?
Ils doivent faire des concessions ? Non.
J'aimerais bien que Clément en régie me fasse des signes pour essayer de me donner un indice.
Il est à Lyon 3, mais j'ai pas l'impression qu'il soit au courant, notre Clément. C'est en fait à cause d'une erreur d'une secrétaire et d'un piratage que Lyon 3 est dans la mouise. In the brouf, komato koto, ninaru. Pourquoi ?
Ah, il n'y a pas eu un rançonnage ou quelque chose comme ça ? Ça m'a fait penser à charançon d'ailleurs. Mais...
Attends, on va tout reprendre dans l'ordre. Un rançonnage, déjà, mot qu'on n'emploie plus depuis le 18e siècle, je pense. Et ensuite, oui, ça t'a fait penser à...
charançon.
Oui, voilà. Bon, ta gueule.
Mais
bon.
Si, les plantes, les insectes qui bouffent les plantes, là, par en dessous, comme des petits vers qui s'incrustent dans les réseaux souterrains... De Lyon 3.
On l'a perdu. Non, ce n'est vraiment pas ça. Peut-être qu'avec un indice, il s'agit de l'extrait d'une émission diffusée sur Internet et baptisée Actu Entreprise. Et comment dire, on sent qu'on va bien se marrer à l'écoute de l'émission.
Bonjour et bienvenue à l'hôtel Chateaubriand à Paris. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Lebon. Hélène, vous êtes avocate spécialisée donc dans la protection des données personnelles. ainsi que plus généralement dans le droit des nouvelles technologies. Vous intervenez en France et aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la donnée personnelle qu'on va décliner en trois parties. Hélène, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça vous a aidé, cet indice Lyon 3, les données personnelles?
Vendu, c'est des données personnelles à une entreprise?
Non, alors, c'est pas ça.
Je crois qu'elle a dévoilé les photos ignobles qu'ils prennent au début de l'année pour les photos d'étudiants. Elle les a dévoilées sur le net.
C'est presque ça, Mathilde. Oh. On va t'accorder la réponse. En fait, si l'université Lyon 3 est au cœur d'une polémique, c'est qu'elle a laissé fuiter les données de milliers d'étudiants, non pas juste les photos. Une base de données a été diffusée par erreur, en pièce jointe d'un courriel. Il s'agissait d'un fichier Excel qui comportait plusieurs dizaines de milliers d'identités, de mails, d'étudiants et d'étudiantes. Le responsable numérique de l'université, contacté par le journal Lyon Capital, a affirmé que le fichier concerne exactement 2190 étudiants. Une de nos secrétaires en remplacement a fait une boulette. Oui, effectivement, vu qu'elle a joint le fichier confidentiel à un message groupé. Mais elle n'est pas la seule fautive, hein, parce qu'en octobre 2014, il y avait donc eu un piratage. Et cette fois-ci, c'était les données personnelles de 5000 étudiants qui avaient été concernés. C'est un peu ballot quand même comme affaire, là, cette histoire des données personnelles qui fuitent comme ça.
Clément, tu as des informations sur toi qui circulent du coup sur internet ou...
Ah mais peut-être, effectivement, Clément, à la régie.
Mais je pense en fait que c'est pas des Ukrainiens ou des Chinois, ça doit être les admirateurs de Clément qui ont été prêts à tout pour obtenir ces informations.
Et du coup, ils ont noyé ça en faisant aussi...
Il en vaut bien la peine, je pense.
Et moi, je sens que Thomas va bientôt passer sur TF1, où on nous fait du psychodrame dans tous les journaux télévisés à 20h. Avec la musique des Dents de la Mer, bien sûr.
Et justement, sur TF1, il y a une femme, grande prêtresse du... Sans transition. C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges à l'abominable enfantine et déjà un amour de dessert. Mon petit banana split d'amour, après un jingle, c'est à toi.
Lyon s'est réveillé, on était au XVIe siècle. Là, je me suis dit que ça allait quand même être un bon siècle de merde et de sang. Bref, je vous fais pas Luther, Calvin et toute la jeunesse du protestantisme. On est déjà à 17 secondes de chronique et on va perdre du temps. Le catholicisme a dit « Je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Le protestantisme calviniste a dit « Moi aussi, mais je lis la Bible en français, je ne prie pas la Vierge et les Saints et je ne peux pas sauver mon âme par moi-même parce que je suis un mec sobre ». Il y a une jolie fille que j'essaie de choper en ce moment, elle s'appelle la concision. Oh. Bref, le protestantisme, c'est comme Ryan Gosling, it's the new sexy. Dans toutes les couches de la population, des Lyonnais se convertissent, sauf les Italiens. Je me suis demandé, et les archevêques de Lyon, ils se touchent la nouille?
Oh,
j'ai vérifié.
Non.
Mais non, j'ai vérifié, les archevêques, c'est pas qu'ils s'en branlent, mais quand même. Ils sont tout le temps fourrés à la cour du roi. Lyon, c'est loin, les Lyonnais, ils sont loin. Comme dit le proverbe, loin de la Sorbonne, près des petits Suisses à Genève. Là, je me suis dit que j'étais pas claire. Les Lyonnais n'ont pas de fac de théologie, ils sont loin de celle de la Sorbonne, et Calvin a moyen de leur faire de l'œil depuis Genève, c'est QFD. En 1539, les ouvriers imprimeurs lyonnais font la grève. On appelle ça le grand trick, et oui, je dis bien ça au masculin. Comme par hasard, ils sont plus en grève quand il y a plein de trucs à imprimer. Le père Edmond Auger se bat contre les pasteurs protestants par tracts et pamphlets interposés. Si les mecs avaient eu Twitter, on aurait eu un autre niveau d'intellectualité. En fait, tout le monde peut pas choper la concision. Mais tout ça, les protestants s'en branlent. En 1546, ils ouvrent le premier temple protestant à Lyon. Lyon change et on transforme les cimetières des Jacobins ou des Célestins en place. Pourtant, on aurait eu besoin de cimetières. En 1562, les protestants prennent Lyon. Ils sont aidés par un gros con qui devait avoir des choses à psychanalyser. On l'appelle le baron des adrets. Le mec viole les murailles des chanoines au pied de Fourvière, les cloîtres sont abattus. Pendant un an, la ville est protestante. Les mecs détruisent Ennet, Saint-Nizier et les statues de la cathédrale Saint-Jean, parce que les mecs aimaient le design épuré bien avant Ikea. Après ça, la ville redevient catholique, parce qu'il faut pas déconner quand même. Pendant 10 ans, des fois on est tolérant, des fois on l'est pas. Août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. Et ben à Lyon, aussi. On appelle ça les vêpres lyonnaises. Manlo, c'est le gouverneur de Lyon. Les protestants, ça le dérange pas trop. Comme il a des tendances déviantes, il les enferme, paraît que c'est pour les protéger. Mais les Lyonnais, ils sont énervés, ils veulent buter du huguenot. Manlot a dit « Je suis parti à la Guillotière et quand je suis revenu, ils étaient plus là. » Ah bah oui, ils étaient dans la Saône. Bref, on a massacré les protestants. Après, Lyon devient national catholique. Oui. Les Lyonnais voient Henri IV et lui disent « Fuck, on t'obéira pas. » Henri IV dit « Mais je suis devenu catholique. » Les Lyonnais ont dit « Ah bah alors ok, on t'obéit. » Henri IV a dit « Ouais, mais comme vous êtes des gros cons, vous allez devenir une bonne ville du roi. » Bref, Henri IV a soumis la municipalité par l'édit de Chenny. Le reste des protestants, ils sont partis. C'était des grandes familles bancaires, des imprimeurs, des tisseurs de soie et des marchands. Sauf les Italiens. Lyon est dans la merde économiquement. Elle est redevenue une ville bien moyenne. Mais on est content. On est bien catholique.
Allez, des guerres de religion, on revient en 2015 avec cette question. Qu'a donc trouvé une habitante du square d'Unan à Rieux-la-Pape dans ses toilettes ?
Mais ça devient vraiment TF1 à la fin du journal.
Dans le fait divers maintenant, dans le glauque en plus, parce que dans les toilettes...
Mais alors qu'est-ce qu'elle a trouvé, une pauvre habitante ? Qu'est-ce qu'elle a pu trouver ?
Je sais pas, une sorte de boa ou un
piton. Ah oui, presque ! Oh, presque ! En tous les cas, c'est un serpent.
Je voulais être spécifique, tu comprends ?
Ah oui, non mais je comprends, Mathilde, oui, ça t'honore, cette concision, je te reconnais bien là. C'était une couleuvre, en fait, je vous explique. Jeudi 5 février dernier, Rieux-la-Pape. Il est 20h32. Germaine Fayot a très envie de chier. Elle se lève de son fauteuil en soupirant. Le reportage du journal télévisé de France 2 sur « Pourquoi qu'il fait donc froid en hiver ?» qui a commencé voilà à peine 20 minutes, n'est pas encore terminé, mais son envie est trop pressante. Elle se dirige donc à la hâte vers l'évator closette. Elle ouvre la porte en pensant à David Pujadas, si séduisant avec son menton carré et sa coupe de Playmobil. Et c'est alors, en remontant la lunette des toilettes et en se disant que c'est quand même dommage que David Pujadas soit si petit, qu'elle découvre, nageant dans la cuvette, une grosse couleuvre. Germaine Fayot pousse un cri. Madeleine Michu, qui habite l'appartement du dessus, déclarera « On aurait dit qu'on égorgeait une truie ». Germaine Fayot pousse donc un cri de truie et referme prestement la lunette de ses toilettes. Ravalant son envie pressante de couler un bronze, elle se rue dans son salon et compose le 17. Au téléphone, avec Maxime Braillard, agent de police nationale, elle expose son problème avec des mots simples. « Il y a un serpent dans mes chiottes !» Ce à quoi l'agent de police lui répond « Eh ben tire la chasse d'eau, mes mères !» Bon alors, autour de la table, est-ce que vous avez déjà trouvé un serpent dans vos toilettes ?
Mais je tiens à préciser pour les auditeurs et les membres de Transistor que les couleuvres ne sont pas dangereuses, contrairement aux vipères, et que donc il n'y avait aucun risque.
Il fallait qu'elle la caresse dans les chiottes,
mais
c'est
non,
ça ?
Non, mais elle pouvait tranquillement...
Elle pouvait tranquillement se soulager sur la couleuvre. C'est ça l'idée, moi... Marie-Ève.
Non, mais je veux dire, elle aurait pu tranquillement tirer la chasse d'eau sans problème.
C'est la cruauté envers les animaux, oui, on n'en parle pas.
Excusez-moi de me soucier du bien-être de la couleuvre dans cette histoire, mais...
Moi, ma question... Mais la couleuvre, est-ce qu'elle a été traumatisée?
Non,
ça... Est-ce qu'on a interviewé la couleuvre?
Ma question est tout autre. Est-ce que les couleuvres sont des animaux qui... aquatiques? Parce que moi, il me semble qu'elle était noyée, du coup, elle est morte, cette couleuvre.
Eh bien, apparemment, non, ça doit être un peu aquatique. Et puis, blague à part, cette riarde, hein, puisque c'est comme ça qu'on habille...
Oh, les riards, oui.
Parce que c'est comme ça qu'on nomme les habitantes de Rieux-la-Pape. Ben, elle a effectivement appelé la police, hein, qui n'a pas pris au sérieux son coup de fil. Du coup, elle a pris des photos de la couleuvre, elle est allée au commissariat et les policiers sont alors intervenus. Mais la couleuvre était partie. Donc c'est bien qu'elle est un peu aquatique, cette couleur.
D'accord, donc au moins elle continue à naviguer,
à vivre sa vie tranquille,
patauger tranquillement dans,
les égouts,
dans nos tuyaux.
Ouais, dans nos tuyaux. Ouais.
Elle est la bienvenue chez moi, en tout cas.
C'est noté. Bon, allez, on quitte les WC pour les vestiaires. Sport dans les gones et un couple infernal. Romain à la rédaction, Marie-Ève à la lecture. Enfin, elle essaye.
Commençons par le football féminin et l'OL qui n'en finit plus de gagner.
Ah oui.
Elles sont actuellement deuxièmes du championnat avec 17 matchs et autant de victoires.
Ah oui, elles sont fortes, nos lyonnaises. Hein.
Elles comptent en effet deux matchs de retard sur le Paris Saint-Germain féminin et les lyonnaises culminent à un goal average de plus 110. Des petites joueuses en somme. On notera leur nouvelle victoire, seulement 4-0 sur le terrain de Soyo. Info de dernière minute, la sélection nationale du Brésil, la Seleção, c'est écrit phonétiquement, me précise Romain, vient de s'inscrire pour le stage de remise à niveau.
Oui, donc comme c'est écrit phonétiquement, il y a une CDI sous le C, on dit la Seleção, pas la Seleção. Et pourtant, il te fait ça, vraiment, il est au petit soin et qu'il écrit vraiment comme il faut.
Pardon Romain. Donc la Seleção. Moi, j'aurais appris des choses, je m'endormirais moins bête.
Les auditeurs sont contents. Hein.
Oui, bon, merci.
Fait l'apprentissage de la petite Marie-Ève sur Transistor, c'est bien. Hein. Heureusement qu'ils ne payent pas pour nous écouter.
En plus,
hein.
Je crois que c'était la Seleção en plus. Mais je prononce.
Non, mais attends, maintenant elle va nous donner des cours de prononciation, elle qui prononce tout mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Bref, on continue.
Oui.
Eux, vu leur dernière performance, ils ont suivi avec assiduité ces stages. On parle de l'OL masculin, bien sûr.
Mais oui, mais
c'était
oui.
Dimanche soir, le choc de la Ligue 1, le tournant du championnat.
Et
résultat,
oui.
Match nul. Ouais. Au classement, rien ne bouge donc, et les Rodaniens restent premiers.
Oui.
Oui, mais Lyon jouait à la maison, à Gerland, pas dans le jardin de Romain, je tiens à le préciser, puisque c'était à mon balcon.
Mais ben oui.
Un match très agréable et équilibré, qui fera tout de même polémique, car le pénalty du but de Paris a été retiré.
Oui, bon, bien
en même
fait.
Temps, les Lyonnais n'ont sûrement pas été prévenus que lorsque l'arbitre fait reculer hors de la surface, ce n'est pas pour y retourner en sprintant avant même que le pénalty ne soit tiré. Il y a des choses qui ne changent pas. Un jour, une grande poétesse a dit...
Je voudrais bien,
ouais, ouais, ouais.
Mais je peux point.
Ouais, ouais, ouais. Bref. C'est devenu l'hymne de l'ASVIL cette saison.
On recommence.
20 matchs, 10 défaites, 10 victoires et une nouvelle déconvenue le week-end dernier face à Strasbourg. Respect, Annie, mais je précise quand même que Strasbourg, c'est ma ville natale, donc Romain,
c'est pour ça
je suis quand même un peu contente.
Que tu sais prononcer.
Tout à fait. En ce qui concerne les basketteurs, chapeau bas, parce que même en vous forçant, vous ne pourriez pas faire pire.
Oh, c'est méchant.
Ligue Magnus, maintenant, avec les hockeyeurs lyonnais.
Ben oui, les hockeyeurs.
Ils sont encore en course pour ne pas sombrer dans les tréfonds du classement. Ils restent pourtant, à 2 journées de la fin, sur une série de 3 défaites consécutives. Petit clin d'œil américain avec la NBA, maintenant. Si les Atlanta Hawks surprennent, mais pas autant qu'on veut bien le laisser entendre. On est en train de perdre Thomas. Donc si les Atlanta Hawks surprennent, pas autant qu'on veut bien le laisser entendre, les New York Knicks, eux devraient enlever les plumes de leur pipe. Je ne préciserai pas de quel endroit. Ainsi, le club avec le salary cap le plus élevé de la ligue en est aussi la risée. Jeu stérile, individualité défaillante, tout cela mélangé avec un coach incompétent. Et
un
vous
coach.
Trouvez. Et vous trouvez soit le club de mon cul avec que des trous, soit les New York Knicks. Il a bien vieilli le rêve américain.
Et oui.
Et c'est enfin déjà terminé pour aujourd'hui. Mais vous
enfin
retrouverez
déjà terminé pour aujourd'hui. Oh là là.
Mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Ce sera, comme l'a dit Thomas, le 25 février et je serai au chômage ou en vacances puisque Romain sera là en direct et en vidéo.
Et, oui.
Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez le gloubi-boulga.
Allez, si on sortait, chers auditeurs, maintenant pour ça, chaque gonne va vous donner son envie de sortie, son bon plan. Et on va faire un petit point d'abord sur un jeu concours qui a été lancé. Rappelez-vous, c'était lors de la dernière émission.
Alors déjà, les modalités du jeu concours pour l'auditeur
vas-y.
Qui m'accompagnera
bah
à ma
oui.
sortie du
faut
week-end.
Faut être précis,
Alors vous pouvez envoyer une photo de vous-même à l'adresse de la rédaction Transistor.
De préférence
Voilà. Les photos ne seront pas tirées au sort, elles sont sélectionnées par ma personne.
Voilà.
Voilà, et vous pourrez m'accompagner alors.
Alors déjà... quels sont les critères qu'on sache un peu? Est-ce que, comme certaines personnes, Normand à la radio, tu aimes particulièrement les barbes.
Elle aime particulièrement ce qui ressemble à un légume, étant donné qu'elle est végétale.
Exactement.
Donc tout ce qui est une tête d'endive, d'asperge.
Si vous posez nu avec une carotte, franchement, ça peut marcher.
Bon alors, Mathilde, combien de photos d'hommes nus avec leurs carottes as-tu reçues? Dis-nous tout.
Plusieurs centaines.
Oh là là, là, là mais comment tu fais pour choisir? Du coup, c'est ça, tu peux pas et tu tombes sur un russe.
Oui, bah finalement, j'ai fini par être un peu honnête avec moi-même, avec mes sentiments, et je tiens à m'excuser auprès de tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes aussi, qui ont été très déçus, qui ont gaspillé une carotte pour l'occasion. Bah, certains en ont fait usage très créatif.
Mais moi j'ai une question. Est-ce que Vlad a participé?
Non, malheureusement. Et je compte sur Transistor pour faire passer le message.
Bon, de toute façon, on va arrêter de parler de ça. On veut réparer une injustice criante puisque Marie a eu le droit à son petit surnom grâce à Lio, mon petit bananes split d'amour. Bon, Mathilde, c'est tout simplement la grande star de Transistor, hein, des centaines de mails avec des photos de femmes et d'hommes nus, juste pour elle. Mais toi, Marie-Ève,
ma chère... Je me disais bien que mon tour viendrait un jour.
Oui, toi, Marie-Ève, j'ai également pensé à toi, parce que bon, t'es un peu ma chroniqueuse gastronomique préférée. Hein, de l'autre côté, j'ai que toi. Et donc, j'ai trouvé cette chanson de Lio qui te va comme un gant.
Alors heureuse. Est-ce que je veux bien être la reine des pommes la semaine de la Saint-Valentin, parce que dans la Grèce ancienne, on jetait des pommes à la personne dont on était amoureux.
Genre on lui jetait dessus un peu agressivement, en plein visage, ou comment ça se passait?
Il fallait que les intentions soient claires, mais il fallait viser correctement aussi, je pense.
Bon allez, la reine des pommes vous invite en cuisine, sans se prendre le chou.
Alors aujourd'hui, séance spéciale à Sans se prendre le chou, puisque nous avons une invitée surprise. Et l'animateur n'écoute pas.
Mais non, qu'on n'est pas filmé. Laisse-moi vivre ma vie. Est-ce que je te balance des pommes dessus? Non, alors tu me laisses tranquille.
Je pensais que tu présenterais au moins notre invitée surprise, Thomas.
Bon, c'est désespérant.
Dis donc, à la technique, il veut son compte aussi.
Alors aujourd'hui, séance spéciale sans se prendre le chou, puisque nous avons une invitée surprise que Thomas a oublié de présenter tout à l'heure.
Mais oui, oui, je suis vraiment confus, chers auditeurs. Il s'agit, je crois, d'Amandine Lapraline. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à Transistor pour cette interview exceptionnelle sur nos ondes. Alors déjà, donc pour vous présenter brièvement, vous travaillez en intérimaire dans les Bouchons Lyonnais et vous passez d'un établissement à l'autre. Vous êtes très discrète, si je puis définir ainsi votre caractère, pourtant indispensable au fourneau, Amandine. Pourriez-vous vous présenter peut-être plus amplement afin que les auditeurs vous connaissent davantage et puis dire d'abord d'où vous venez ?
Ah oui, oui, j'ai des origines très distinguées, vous voyez. Je suis de la famille du maréchal Plessis-Pralin. Mais de la branche bâtarde. Parce que le cuisinier du maréchal, Clément Jaluzot, a engrossé la femme du maréchal. Et celui-ci, très fâché, a chassé le cuisinier et la petite fille, c'était au XVIIe siècle. Ils ont dû se réfugier à Montargis, parce que on se réfugie où on peut, voilà. Oui. On n'aurait pas choisi Montargis, mais bon.
C'était ça au Courtenay, ils ont choisi Montargis.
Et pour survivre, ils ont ouvert une plaque tournante de friandises et l'ont appelée au duc de Pralin pour que personne n'oublie cette histoire d'adultère. Sauf que l'ironie a rattrapé ma famille au début du XXe siècle, et Léon Mazet, qui était pourtant marié à Jeanne Vieillard, la fille du grand chocolatier de Clermont, a commis l'adultère avec l'une des filles de la famille Jaluzot-Lapraline et du coup a récupéré les secrets de la boutique.
Bah dis donc, ça baisse dans la famille, hein.
Oui, une histoire de famille, effectivement, assez complexe. Mais vous avez aussi, justement, des... Je crois savoir aussi que vous avez des cousines en Belgique.
Ah non, 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 surtout pas d'amalgame, je vous en prie. Je n'ai rien à voir avec ces filles-là. En plus, ça m'étonnerait que ce soit vraiment d'origine belge, vu comment elles sont bronzées. Elles sont brunes chocolat, alors que moi je suis blonde, avec les yeux en amande. Enfin bref, à mon avis, les Belges avaient besoin de se faire un patrimoine culinaire, et ils sont allés fourrer du côté de la Méditerranée. En tout cas, il y a une question de déracinement dans tout ça, puisque leur nom, la praline, ne vient pas, comme dans mon cas, du nom du maréchal Plessis-Pralin, dont Clément Jaluzot a emprunté la moitié, sans faire de mauvais jeu de mots, mais il vient du mot praliné, qui signifie entourer la racine d'une plante. Vous voyez, entre la polyorcétique et l'horticulture, il y a quand même une différence de classe.
Ok, on n'insiste pas. Mais racontez-nous à présent votre histoire plus récente. Dites-nous donc pourquoi vous êtes obligé de passer d'un établissement à l'autre comme ça. Que vous est-il donc arrivé ?
Eh bien, au début, je vivais très heureuse à Montargis, entourée de mes parents, de toutes mes sœurs, parce que vous savez, dans la famille, on n'a que des filles, c'est une tradition. Et puis un jour, je suis allée en vacances à Saint-Genis-sur-Gier, en Savoie, avec ma sœur Agathe.
Faut le vouloir, hein, faut le vouloir.
Et oui, on le voulait, on le voulait. Alors ma sœur Agathe, oui, parce que tous nos prénoms commencent par un A, c'est encore une tradition de famille. Et le tenancier de l'hôtel, un certain Labully, lui a fait des avances très insistantes, mais très... très insistante.
Non, mais non, c'est pas possible.
Ah, mais l'honneur de la famille est resté sauf, monsieur Lacombe.
J'espère.
Alors, par dépit, la Bully a créé une brioche ronde, et à chaque fois qu'il mettait une friandise sucrée dessus, et qu'elle coulait à la cuisson, c'était comme s'il suppliciait ma sœur. Ah, ce garçon n'était vraiment pas net. Vraiment pas net.
Les trous dans la brioche, t'en mets stop, enfin.
Mais oui, mais les clients ont aimé. C'est ça, le pire. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait plusieurs friandises dessus, dedans. Alors, il a voulu s'en prendre à moi aussi, et nous avons fini par fuir à Lyon.
Oh là 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 là, c'est vraiment affreux. Bon, et à Lyon, alors vous avez au moins trouvé refuge dans les bouchons en survivant, alors grâce à des petits boulots, c'est ça ?
Ah oui, oui, mais alors je ne vous explique pas. Qu'est-ce que nous sommes tombés bas ? Cette fois, c'est à moi qu'on s'en est pris. Vous savez, sans me vanter, bon, heureusement qu'on est à la radio, pas à la télé, je suis rose et plutôt craquante.
Oh oui, je constate qu'en plus, vous êtes toutes de rose vêtues aujourd'hui.
Ah oui, 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 je mets un point d'honneur à toujours venir vêtue de cette teinte. Et donc, rose et craquante que j'étais, j'ai plu à un mauvais garçon qui travaillait en cuisine dans un débouchon. Et le pire, c'est que lui était pas mal bâti. Bon, il m'a complètement fait fondre, je peux bien le dire. Il faisait des avances, il me harcelait avec un mortier. Ça me flattait. Et en même temps, ça me brisait le cœur. Oh, et puis, comme il était très changeant, tout d'un coup, il devenait la crème de la crème, tout frais, tout guiré. C'était doux, c'était tellement sucré. Ah, si vous saviez, ah, le beau mariage que ça aurait fait, Ah, si seulement il ne m'avait pas plaqué sauvagement sur cette plaque de cuisson. Ah, j'en ai encore mal. Ah, j'ai crié, le patron nous a découvert, il nous a renvoyés, mais en gardant cette idée un peu tard devant lui.
Je suis horrifiée.
Mais qu'est-ce que c'est que cette chronique, chers auditeurs ?
Mais lui, il a fait fortune, ce patron. Et nous, nous courons toujours de bouchon en bouchon.
Bon, bah alors je connais dans ce cas-là quelqu'un qui pourrait peut-être vous cacher. Il s'appelle Auguste Pralus. Et dans sa brioche, la praluline, il n'emploie que d'honnêtes filles de Valence et du Piémont.
Oh, alors, si c'est quelqu'un d'honnête, alors.
Mais tout à fait. Et en plus, avec vos bonnes joues roses et votre mordant, je suis sûre qu'il y a moyen de le faire craquer.
Bon allez, pour digérer, rien de mieux que sortir dans Lyon et Mathilde. Bah, un petit bon plan, et puis comme ça, nos auditeurs seront ravis. Je suis sûr qu'ils feront la queue là où tu donneras
Eh bien non, cher Thomas, car je t'apprends que je ne serai pas là ce week-end. Donc
Mon Dieu !
Non, je serai à Bordeaux. Donc alors bien sûr, il y aura peut-être certains d'entre vous qui auront envie de me suivre à l'autre bout de la France.
Mais oui, mais alors que fais-tu quand tu vas à Bordeaux ?
Généralement je traîne chez moi, hein, donc c'est pas.
Elle traîne chez elle.
Ouais, chez mes parents.
Pour les auditeurs.
Oui, non, mais alors quand même, je tiens à préciser que je suis professionnelle. Je vous ai quand même préparé un petit plan sortie sur Lyon.
C'est bien de penser à nos auditeurs.
Mais de dernière minute, hein, et forcément, j'ai été obligée de tricher un peu, et donc je suis allée me renseigner au dernier moment auprès de Marie-Ève. Je lui dis, Marie-Ève, où faire la chagasse à Lyon ? Marie-Ève. Ou bouger son boule.
Mais Marie-Ève.
Je lui ai aussi demandé conseil en retour. Hein. C'était un échange de bons procédés.
Je lui ai conseillé des restaurants, des cafés, et elle m'a conseillé des boîtes de nuit, des lieux de drague.
Mais je ne te savais pas comme ça,
Marie-Ève. Ah, les petits arrangements entre amis. Hein.
Voilà, donc échange de bons procédés. Marie-Ève m'a conseillé un certain bateau.
Oui.
Elle m'a dit que c'était un peu bateau comme plan sortie. Vous apprécierez drôle. Le jeu de mots.
Ah, drôle. Là, on reconnaît. On reconnaît
Marie-Ève.
C'est bien Marie-Ève qui a vu le conseil.
Voilà. Et donc, le Layers Bot, c'est ça, Marie ? Tu étais là.
Layers Rock.
Layers.
Oui, parce qu'en fait, c'est finalement Marie qui a donné.
Je précise que Mathilde est allée passer 2 mois en Australie un jour dans sa vie. Mais.
Mais on n'en a rien à foutre.
Non, je reprends rien. Tout. Je reprends tout. Et merci pour ton intérêt pour ma vie, Thomas. je te raconterai un jour ma vie à Melbourne dans les moindres détails à cause de cette remarque. Alors donc Marie-Ève m'a conseillé un certain bateau sur les quais du Rhône, pas loin de Saxe-Gambetta, c'est un super
bateau.
Oui, et
surtout pas très loin du Grand Temple, c'est pour ça que je le connais.
Voilà, si elle veut rencontrer
tout s'explique, tout s'explique, là je te reconnais Marie-Ève. Bon alors Marie-Ève, puisque tu prends la parole, là, tu fais ta gourgandine aujourd'hui, où est-ce que tu envoies nos auditeurs valser ?
Oui, alors Mathilde, qui a des goûts un peu particuliers, m'a conseillé le bouchon des carnivores rue des Marronniers.
C'est tout moi, c'est tout moi.
Bah oui, on le sait bien.
Alors, comme elle a aussi des goûts de luxe, j'avoue que c'est un tout petit peu cher par rapport à ce qu'on trouve dans les autres bouchons, mais bon, la qualité est toujours au rendez-vous, donc en principe, on devrait quand même être satisfait en sortant. Donc, rue des Marronniers.
Rue des Marronniers, c'est noté, on ira certainement. Et Marie, est-ce que ça t'intéresse d'aller... T'es plutôt steak ou t'es plutôt Australie et danse?
Alors, ni l'un ni l'autre. Alors, il se trouve que moi non plus, ce week-end, week-end de la Saint-Valentin, je ne serais pas à Lyon. Mais si j'avais été à Lyon, je serais allée à l'Institut Lumière, parce qu'un très bon ami à moi, un jour, est allé voir un film qui s'appelait Aguirre ou La colère de Dieu. Donc, film
Mon petit banana split d'amour.
Film d'un cinéaste allemand qui s'appelle Herzog, je ne connaissais pas, et qui traite de la démesure d'un conquistador espagnol dans le Nouveau Monde. Et ça passe justement ce week-end, le samedi et dimanche, 14 et 15 février. Si j'avais été là, je serais certainement allée le voir. Et si vous n'avez pas envie de le voir, parce que la nouvelle vague allemande, c'est pas votre truc, dites-vous que c'est marrant d'aller voir des Allemands qui se prennent pour des Espagnols et
des conquistadors
espagnols qui parlent allemand.
Ouais, je pense qu'avec tout ça, vous avez vraiment de quoi vous occuper dans Lyon, des choses originales. Et si vous reste un tout petit peu de temps, eh ben... vous pouvez ménager comme ça une plage dans votre planning pour vous engager. Oui, là, on redevient sérieux tout de suite. L'espace d'un jingle pour vous montrer que la vie associative lyonnaise est très riche. Et aujourd'hui, nous recevons l'antenne lyonnaise d'une association bien connue, Médecins du Monde, ONG de solidarité internationale qui apporte une aide humanitaire aux populations vulnérables et qui fonctionne sur le bénévolat de professionnels de santé, d'où son titre. Et c'est justement un médecin qui a pris place derrière le micro des gones pour parler de son ONG. Docteur Jean André, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Médecins du Monde est présent dans plus de 60 pays. L'association amène des missions d'urgence, participe à l'effort de reconstruction des pays ou des régions après des conflits ou des catastrophes. Mais Médecins du Monde n'est pas uniquement présente à l'étranger. Elle mène aussi de nombreuses actions en France. D'ailleurs, MDM à Lyon, ça donne quoi, belle Mathilde et cher Florent?
Création de la première mission à Lyon.
En 1987.
Budget 2015 du Centre d'accueil de soins et d'orientation, CASO.
270 000 euros, 128 bénévoles, 2 emplois temps plein en CDI, 1 emploi temps plein en CDD.
Budget 2015 des missions mobiles.
150 000 euros, 78 bénévoles, 2 équivalents temps plein en CDD, 1 équivalent temps plein en CDI.
Merci, voilà une présentation qui est très précise. Docteur Jean-André, quand on ne connaît pas forcément bien MDM, on peut être surpris de sa présence sur le sol français. C'est en fait qu'en 1986, la mission France a été créée dans un contexte où la fin des années 80, c'était l'épidémie du sida, la recrudescence de la pauvreté. Alors non seulement la mission France, elle continue 30 ans après, mais avec une ampleur telle que selon les chiffres de 2011, elle représentait 100 programmes dans 29 villes, 2000 bénévoles, 60 salariés, 21 centres d'accueil de soins et d'orientation qui ont reçu 26 000 patients et réalisé 35 000 consultations médicales par an. On va parler de cette mission France avec vous, Jean, à travers l'exemple de Lyon, bien sûr. C'est un des 21 centres d'accueil de soins et d'orientation, un CASO, qui est présent à Lyon. Qu'est-ce que c'est qu'un CASO?
Comme son nom l'indique, c'est un centre, donc un lieu où les patients viennent.
Oui.
C'est un lieu A d'accueil,
oui.
C'est un lieu S de soins et c'est un lieu O d'orientation. La mission de Médecins du Monde n'est pas de faire le travail qui pourrait être fait ailleurs, mais c'est d'orienter dans les structures de soins classiques les patients qui viennent nous voir et qui devraient pouvoir y accéder.
Alors vous parlez d'orientation parce que vous travaillez avec les patients à la récupération de leurs droits pour accéder aux dispositifs publics de soins. Ça veut dire quoi?
Cela veut dire les aider à avoir du soin dans les structures de soins existantes d'une part,
oui.
Et d'autre part... D'ouvrir leurs droits à la santé ou leurs droits au séjour quand ceci est possible.
Alors on dit il, concrètement, qui vient dans ces CASO, ces centres d'accueil de soins et d'orientation?
Donc pour faire simple, il y a 95% de migrants,
oui.
Et 5% de Français.
Oui.
Parmi les personnes qui sont des migrants, en gros, la moitié viennent de l'Europe.
Oui.
Un quart de l'Afrique noire et une grande partie du Maghreb.
Oui.
Donc voilà les grands groupes de pays dont sont originaires les patients qui viennent chez nous.
Et alors, il y a plus de femmes, vous voyez beaucoup d'enfants. Comment ça se passe ?
Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes.
Oui.
Contrairement à une idée que l'on avait il y a quelques dizaines d'années de cela, où la migration était principalement masculine. Il y a en gros 20% des patients que nous voyons qui sont des enfants.
Dans ces centres, hein, donc, il y a l'accueil, il y a le soin et l'orientation, il y a aussi la prévention. Vous proposez des TROD, c'est-à-dire des tests rapides d'orientation diagnostique, bref, hein, des tests de dépistage rapide du VIH. Ça nous rappelle hein, qu'une des missions historiques de MDM, en plus de l'accueil, de l'encadrement, de l'assistance aux migrants, c'est la lutte contre le sida. À l'étranger, comme dans l'Hexagone, en 1987, MDM avait ouvert son premier centre de dépistage. Aujourd'hui, c'est toujours une mission qui est très importante pour Médecins du Monde.
La réduction des risques, effectivement, qui est une des facettes de la prévention, et reste une mission très importante. Et une des façons d'aborder le problème est de ne pas essayer de le résoudre nous-mêmes.
Oui.
Mais par exemple, il y a... un service de prévention qui est un service de prévention publique, le CEDAG, qui est normalement implanté dans les hôpitaux, qui assure des activités hors les murs et en particulier à Médecins du Monde.
Donc vous bossez avec des associations, des institutions, c'est, oui. vous insistez là-dessus parce que Médecins du Monde ne fonctionne pas en vase clos, quoi. C'est ça l'idée.
Certainement pas. Et l'idée est même, à terme, de pouvoir transférer nos activités sur le secteur public ou sur le secteur de santé classique.
Alors, justement, puisque vous signalez toutes les passerelles qui existent, dans le CASO, hein, vous proposez également des séances d'éducation à la santé. C'est justement là-dedans, faire de la prévention.
Effectivement, prévention des maladies, prévention des grossesses non désirées,
oui.
prévention des maladies sexuellement transmissibles, prévention de la tuberculose, prévention des désordres alimentaires quand c'est possible.
Du saturnisme infantile aussi, me
semble-t-il. Alors, donc, pour le saturnisme infantile, effectivement, c'est une activité du groupe ou de la mission hors centre.
Oui.
L'objectif de ces missions a été de faire le point sur le risque de saturnisme sur des terrains contaminés par les métaux lourds, dont le plomb.
Alors justement, vous parlez des missions, ça me fait une magnifique transition, Jean, puisque à côté de ce centre d'accueil de soins et d'orientation, la mission France de Médecins du Monde en France et à Lyon, ce sont des missions mobiles et certainement la plus connue, c'est la mission bus. Alors qu'est-ce que c'est que cette mission bus, Jean ?
Le but de l'opération est d'aller vers les personnes qui se trouvent en situation de précarité et de vulnérabilité. Et le bus avait été créé pour aller sur les places et rencontrer là les personnes qui étaient désocialisées.
Et qu'est-ce que vous leur apportez comme aide ?
On commence par leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls.
Et c'est déjà très important.
On commence par leur proposer un café. Mmh. Ça veut dire qu'ils sont reconnus en qualité d'homme ou de femme.
C'est de la convivialité.
C'est de la convivialité.
La dignité des personnes, oui.
Il y a ensuite une première orientation qui peut être faite en fonction de la demande.
Oui.
Et un certain nombre de personnes sont orientées vers le secteur de santé classique. Et une autre partie, quand le besoin s'en fait sentir, par exemple, quand ces patients n'ont pas de droits, et de couverture maladie, ils sont orientés vers le centre de soins. Donc c'est un moyen pour orienter vers le centre de soins un certain nombre de personnes qui n'y seraient pas venues.
Alors autre mission mobile hein, de MDM en France et à Lyon, c'est la mission squat, qui consiste justement à se déplacer sur les squats pour assurer une veille hein, permettant de prendre en charge certaines pathologies, d'orienter, hein, toujours la même idée, hein, vers des structures adéquates et vers une ouverture des droits quand c'est nécessaire. Il y en a beaucoup des squats à Lyon.
Médecins du Monde a une vingtaine de squats actuellement dans lesquels ils se dirigent et dans lesquels ils agissent.
Alors, on parle des squats, vous parliez des migrants tout à l'heure, clandestins ou non d'ailleurs. Mi-janvier, le président de Médecins du Monde, Thierry Abrigaud, signait aux côtés d'autres ONG hein, une pétition contre les tests d'âge osseux sur les jeunes immigrés. Pourquoi il faut interdire ces tests, selon vous ?
Parce que les tests d'âge osseux ne sont pas fiable.
Oui.
Il y a des erreurs qui peuvent aller de 2 à 3 ans. Et dans certaines situations pathologiques, on se trouve, par exemple, chez des enfants, ils peuvent avoir un âge de 10-12 ans et avoir un âge osseux adulte.
Oui. Et alors le problème, pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que un immigré clandestin mineur ne peut pas être expulsé du territoire français quand il est majeur. Il peut l'être. Donc si son test osseux dit qu'il a 18 ans alors qu'il n'en a que 10 pour des problèmes pathologiques ou qu'il n'en a que 16, eh bien le test osseux faisant foi, il est renvoyé. Et alors autre engagement très important de MDM que j'aimerais mettre en valeur, c'est l'adoption. Médecins du Monde est la première et la seule d'ailleurs association humanitaire en France à avoir intégré l'adoption dans ses statuts fondateurs. D'ailleurs, le statut d'organisme autorisé pour l'adoption a été obtenu par MDM en 1988. Et depuis, elle a réalisé l'association 3837 adoptions d'enfants jusqu'à fin 2011, pour les chiffres que j'ai trouvés. Pourquoi cette mission, elle tient à cœur de Médecins du Monde ?
Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui, et d'enfants qui ne pourraient pas être adoptés du fait de leur pathologie. Car une des caractéristiques de l'adoption à Médecins du Monde est que les enfants adoptés sont des enfants malades. Un. Deux, ce sont des enfants qui sont d'un âge avancé. Trois, ce sont des enfants qui appartiennent à une fratrie.
Petite pause musicale, Jean, si vous le permettez. Et quoi de plus logique, hein, quand on reçoit Médecins du Monde, que d'écouter Michael Jackson et Heal the World. En 1995, Médecins du Monde publiait 10 propositions pour l'accès aux soins pour tous. Ce texte, il a eu une grande influence dans la mise en place de la CMU en 1999, la couverture maladie universelle. La CMU, elle permet l'accès aux soins, le remboursement de ces soins, mais aussi des prestations et des médicaments, à toute personne qui réside en France et qui n'est pas déjà couverte par un autre régime obligatoire d'assurance maladie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de difficultés d'accès aux soins. En 2006, MDM révélait dans une enquête que 14% des médecins déclaraient refuser de recevoir des patients CMU. Bon alors, depuis la loi HPST du 21 juillet 2009, la discrimination contre les patients en CMU est interdite, Jean. Ça veut dire que ça y est, l'accès aux soins pour tous, c'est une réalité en France ?
Non, certainement pas. Et y compris pour ceux qui ont la CMU et ou une autre couverture maladie telle que l'aide médicale d'État.
L'AME, oui.
L'AME pour des personnes qui, elles, sont en situation irrégulière.
Tout à fait.
La CMU étant destinée aux personnes qui sont aux migrants ou aux autochtones qui sont en situation régulière. Et oui, il y a bien d'autres raisons pour les difficultés d'accès aux soins que l'absence de couverture maladie ou le refus de prise en charge d'un certain nombre de médecins qui existent, mais qu'il n'est pas raisonnable d'amplifier. Mais il est clair que ce sont des situations qui existent. Il y a bien d'autres raisons pour lesquelles il y a des difficultés d'accès aux soins. Une de ces difficultés est la peur de se déplacer pour les personnes qui sont en situation irrégulière. Il y a également une difficulté linguistique.
Oui.
Et une des actions à Médecins du Monde est de privilégier l'interprétariat et de mettre à disposition de tous les bénévoles qui sont en contact avec les patients un accès à un interprétariat par téléphone.
On comprend bien depuis tout à l'heure que une des missions à destination des migrants de Médecins du Monde, c'est justement de faire le lien. Vous le dites depuis tout à l'heure, Médecins du Monde n'a pas l'ambition de devenir le service de santé bis de la France, évidemment pas, mais de faire le lien, et ça permet justement de réduire ces difficultés d'accès aux soins pour tous. On reste sur ce sujet-là. C'est un sujet qui fait polémique, surtout ces dernières années. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen qui, le 27 mars 2013, sur France Inter, déclarait, je cite, « En matière de santé, mieux vaut être un clandestin qu'un travailleur français ».
C'est absolument désarmant. C'est absolument désarmant. Il est bien évident que ces patients ne connaissent pas le droit français. Et la grande majorité des personnes qui viennent à Médecins du Monde ne viennent pas ou ne sont pas venues en France ou ne sont pas entrées en Europe pour aller se faire soigner. Et ensuite, le parcours de ces patients pour se faire soigner est un parcours extrêmement compliqué.
Alors, pour être tout à fait clair sur le sujet, je me permets de renchérir, Jean. Les étrangers sans papier en France ne peuvent pas bénéficier de la sécurité sociale ni de la couverture maladie universelle, la CMU, puisque ces deux dispositifs exigent la régularité du séjour de l'assuré, sauf s'ils sont titulaires d'un récépissé de demande de titre de séjour. Les clandestins dont parlait Marine Le Pen dans son assertion fausse peuvent, en revanche, obtenir l'aide médicale d'État, l'AME, dont on parlait tout à l'heure, Jean. Mais de nouveau, cette aide, elle est soumise à des conditions de ressources importantes, puisqu'il faut gagner moins de 661 euros par mois pour une personne seule et moins de 981 euros mensuels pour un couple. Voilà, petite précision hein, pour mettre les choses au clair et faire taire ces polémiques un petit peu embêtantes. Et on va passer maintenant à des questions plus personnelles, Jean, si vous le permettez. Une question que je pose souvent à mes invités. Pourquoi avoir choisi cette association Médecins du Monde et pas une autre pour vous engager ?
Il y a beaucoup de hasard dans le choix d'une association.
C'est sûr.
À titre humanitaire, il se trouve que j'étais médecin, que j'avais eu l'occasion de travailler en Afrique noire et que pendant toute mon activité professionnelle, j'avais programmé d'avoir des activités humanitaires.
Dernière petite question qui est rituelle aussi. Si vous deviez décrire votre engagement, Jean, quel mot employeriez-vous ?
Je dirais retour à l'envoyeur.
Retour à l'envoyeur.
Ça veut dire que j'ai beaucoup reçu de l'environnement dans lequel j'ai vécu. Dans ma formation, j'ai bénéficié de bourses, ça veut dire de l'organisation de la nation.
Oui.
J'ai fait un métier qui m'a beaucoup intéressé. Et je me dis que quand arrive la fin de cette période de travail, il est peut-être important de renvoyer l'ascenseur.
Eh ben, c'est une très belle définition, Jean. Je pense que c'est une de celles qui me touche le plus depuis qu'on fait les gones. Merci. Et le temps d'un jingle, je vous laisse en compagnie de mes gones qui ont de drôles de questions à vous poser.
Jean-Pierre ? Je vais répéter la question.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Un proverbe arabe dit « La beauté est une demi-faveur du ciel, l'intelligence est un don ». Beauté, intelligence, elle a tout ça. Autant dire que le ciel l'a particulièrement gâtée. Mathilde a une question à vous poser, docteur Jean-André.
Je ne me laisserai pas déstabiliser par ça. Toi.
Pourquoi la déstabilisation ?
C'est raté.
Je dis la vérité, c'est tout, à nos auditeurs.
Oui.
Faut qu'ils te connaissent, Mathilde.
Bah surtout à la radio, hein, on s'en voit que la moitié. Donc, en fait, vous avez donné une très belle image de votre association, merci. J'aimerais revenir quelque chose d'un peu plus pragmatique qui malheureusement n'a pas été évoqué, c'est évidemment le fait que vous êtes énormément dépendant des dons. Et vous faites notamment partie des nombreuses associations ONG qui font appel à ce qu'on appelle des recruteurs de donateurs. Et évidemment, il faut préciser que ces recruteurs, alors c'est souvent des étudiants qui font un petit job qui est rémunéré, et plutôt pas trop mal rémunéré. Moi, j'ai moi-même des amis qui ont pu être recruteurs le temps d'un semestre, et qui m'ont donné une image assez négative de tout ça, sur le fait que finalement, ça fonctionne souvent à partir d'une logique de quota, et qu'on ne les encourage absolument pas, par exemple, à simplement discuter de l'association auprès de gens qui, par exemple, ne pourraient pas être donateurs dans l'immédiat. Et moi, c'est mon expérience, tant que tout simplement citoyenne qui se promène dans la rue et qui souvent se fait interpeller par ses recruteurs. Si je ne manifeste pas l'envie de donner, on ne va pas particulièrement essayer de me parler de l'association. Et donc, c'est vraiment une logique un peu de marché, disons les choses. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec l'esprit de votre association ?
Alors, je sais bien que la fin ne justifie pas toujours les moyens, mais il s'avère que ce type de démarche est une démarche qui est efficace. Mais j'entends bien la critique. C'est un appel un peu immédiat, rapide,
parfois
bref.
Parfois très pressant, il faut le dire aussi.
Et pressant, et sans trop d'informations.
Est-ce que tu es, toi, Marie, tombée sur ces recruteurs de dons ? Est-ce que tu as une autre question pour Jean?
Alors oui, ça m'arrive de tomber sur eux. Alors, justement, j'ai une question toujours sur le don. Je suis allée voir sur votre site internet et c'est vrai que le bouton qui sert à aller vers le formulaire pour faire un don, on le trouve très facilement. On trouve beaucoup moins facilement, j'ai trouvé sur votre site, comment simplement s'engager, en particulier quand on n'a pas fait médecine, quand on n'a pas de formation liée au médical ou au paramédical. Pour votre association, c'est plus important d'avoir des dons que des bénévoles?
Alors c'est un point intéressant parce qu'effectivement, malheureusement, derrière ce sigle de Médecins du Monde, je dis bien malheureusement, on a l'impression que nous n'avons besoin que de personnel de santé.
Et ce n'est pas le cas.
Et ce n'est pas le cas. Il y a en gros au centre de soins maintenant à peu près la moitié des bénévoles qui n'appartiennent pas, compte tenu de leur profession, aux professions de santé. Donc on souhaite mettre l'accent sur le recrutement, mais on a quelques difficultés à imaginer que cela peut passer par les sites. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des choses pour cela. Par contre, comme les ressources sont mutualisées, on peut faire un appel plus large.
Alors nous aussi, on mutualise ici, on mutualise les questions. Et Florent, une question de Gone à poser, je crois, non?
Oui, alors moi, ce qui m'intriguait, c'est j'ai été plusieurs fois agressé par des recruteurs, effectivement.
À ce point-là,
si bien décrit Mathilde.
Tu te fais agresser, toi, dans la rue, Florent?
Oui, oui, mais c'est parce que j'ai l'air fragile, comme ça.
Ah oui, c'est sûr, quand on voit, t'as l'air fragile, oui.
Non, je crois que j'ai l'air d'un étudiant gauchiste. Du coup, ils se disent que je vais donner parce que j'ai une bonne tête de gauchiste. Mais alors, du coup, j'ai jamais très bien compris la différence entre Médecins sans frontières et Médecins du Monde, ce qui fait que du coup, j'ai donné à Handicap International, qui était les troisièmes dans la rue de la République. Mais du coup, voilà, j'aimerais savoir quelle est la différence et si ça ne fait pas double emploi.
Peut-être, pour résumer, un peu brutalement, même si ça ne résume pas la situation. Mais,
allez-y.
Médecins du Monde est plus sur le territoire français que Médecins sans frontières. Donc il n'y a pas de concurrence. Mais la question, faut-il rapprocher les deux associations, je dirais pourquoi pas, oui.
D'accord. Et, on restera sur ce pourquoi pas final. Merci Jean, merci d'être venu nous parler, non pas de Médecins sans frontières, chers auditeurs, sinon vous n'avez rien compris à toute cette interview, mais de Médecins du Monde et ses actions à Lyon. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous d'être fidèles, chers auditeurs, à ce rendez-vous. Merci à Clément pour la technique, ainsi qu'à ENS Média et plus particulièrement à Léo et Xavier pour leur aide lors de l'enregistrement de la partie association. Je vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, dans deux semaines, le mercredi 25 février. On sera en direct de 16h à 17h pour les Gones, en vidéo. Florence sera de retour parmi nous et Romain fera même le voyage depuis la Seine-et-Marne et Provins pour être avec nous et avec vous. Bref, c'est l'événement à ne pas manquer. D'ailleurs, les festivités, elles commencent dès 14h avec une émission présentée par Marie en ce moment. Puis de 15h à 16h, vous retrouverez également vos émissions Il regarde le monde tourner, Transhistorien et Il était une science, toujours en direct et en vidéo, puis donc les Gones. Et tout ça le 25 février. On a hâte, mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.